Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. La chaire de création artistique du Collège de France accueille chaque année depuis 2005 des créateurs dans tous les domaines, architecture, art plastique, musique ou théâtre. Le romancier, poète et essayiste franco-congolais Alain Mabankou, qui vient d'y être élu, est le premier écrivain à occuper cette chaire. Avec cette nomination, l'Assemblée des professeurs a souhaité mettre en avant la création et le talent littéraire, mais a également marqué sa volonté, je cite, « de donner la place qu'elle mérite aux études africaines et d'être au premier rang dans la réflexion sur un continent et sur des cultures qui marqueront le siècle qui commence ». Né en 1966 au Congo, Alain Mabankou est l'auteur de plusieurs romans, dont Mémoire de Porc-Épic, paru au Seuil en 2006, pour lequel il a reçu le prix Renaudot. Il vit en partie aux États-Unis, où il enseigne la littérature francophone à l'Université de Californie, à Los Angeles, qui est une des universités publiques internationales parmi les plus prestigieuses, dotée d'un magnifique campus. Mais il vit également en France, où il publie. Son œuvre est traduite dans une vingtaine de langues. La leçon inaugurale, qui, comme son nom l'indique, ouvre le cycle de l'enseignement d'un professeur, est un rituel imposant, singulièrement au Collège de France, où elle se déroule dans la belle salle Marguerite de Navarre, pleine de gens triés sur le volet. Prennent la parole l'administrateur du collège, actuellement l'éminent biologiste Alain Prochian, puis le professeur qui a présenté la candidature du nouvel élu. Ici, pour celle d'Alain Mabankou, il s'agissait d'Antoine Compagnon. Pour des raisons de temps radiophonique, ces deux discours introductifs n'ont pu être diffusés, ni en entier la leçon d'Alain Mabankou. Mais vous pouvez retrouver le tout sur le site internet du Collège de France et, comme toutes les leçons inaugurales, celle-ci est publiée dans la petite collection bleue chez Fayard. Elle s'intitule « Lettres noires, des ténèbres à la lumière ». Écoutez.
Madame la ministre, messieurs, madame les secrétaires d'État, madame la secrétaire générale de la francophonie, monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, dès 1916, on commença à diffuser dans ce pays l'allégorie de Banania créée un an plus tôt par l'artiste Giacomo de Andréis et qui marqua le siècle, fixant une image coloniale éternelle de l'homme noir. À partir de 1917, le slogan dévastateur « Il y a bon » lui sera associé et la réaction du monde noir viendra le 2 février 1919 à Paris avec le congrès de la race noire, juste 2 années avant l'apparition de Batoila, le premier roman nègre signé par René Maran et primé par le Goncourt. Les années 30 ouvrirent l'ère de la fierté nègre et en 1956 se déroula à quelques pas d'ici, à la Sorbonne, le congrès des écrivains et artistes noirs à l'initiative de la revue Présence africaine, à cette époque où la capitale française était encore considérée comme le phare du monde noir. Ce congrès eut lieu dans l'amphithéâtre René Descartes, qui avait hébergé la Déclaration universelle des droits de l'homme 8 ans plus tôt, et il préludait l'heure des indépendances africaines et de la libération de la pensée noire. Plus près de nous, en 1968, le romancier malien Yambo Ologem reçut le prix Renaudot pour le devoir de violence. Et plus près de nous encore, au milieu des années 70, ce fut la fin d'une immigration jusque-là ouverte, mais en même temps cette politique qui désignait dorénavant l'autre comme la cause des malheurs de l'Europe ne pouvait pas étouffer la stupéfaction et les interrogations de certaines de ces populations noires, parfois nées en France, vivant en France, ne connaissant que la France, et qui ne savaient donc plus si elles étaient d'ici ou de là-bas. Les Noirs de France revendiquaient alors de plus en plus leur place dans l'histoire de cette nation. Et dans les années 80, elle fut désormais sur les écrans avec le film Black Micmac. En 1996, l'Académie française couronna les honneurs perdus de Calix Béala. Débutait alors le temps d'une littérature d'ici, celle qui me conduira à publier en 1998 mon premier roman, Bleu, Blanc, Rouge, sur le mythe de l'Europe. Un mythe dur qui permettait peut-être de comprendre comment l'Europe était considérée comme un paradis pour les Africains en cette période où la France, champion du monde de football pour la première fois, porté par l'enthousiasme de la victoire, se considérait comme black, blanc, beurre et aspirait à intégrer la question de l'esclavage dans sa mémoire collective. Alors que nous sommes en 2016, c'est-à-dire un siècle après la vulgarisation de ces affiches Banania, 60 ans après le congrès des écrivains et artistes noirs, la France se questionne encore sur les binationaux, tout en restant incapable de penser un monde qui bouge et de s'imaginer comme une nation diverse, multiple, donc riche et grande. Au fur et à mesure que la date de mon introduction au Collège de France approchait et que je poursuivais mes lectures pour préparer cette première prise de parole, je suis tombé sur un paragraphe de « La littérature, pourquoi faire ?» d'Antoine Compagnon, votre éminent collègue qui m'avait contacté en votre nom pour faire partie de votre famille cette année. Dans cette leçon inaugurale prononcée le 30 novembre 2006, Antoine Compagnon avouait, j'essaye de prendre sa voix mais je n'y arriverai pas, « Vous n'imaginez pas tout ce qui manque à ma formation de lettré, tout ce que je n'ai pas lu, tout ce que je ne sais pas, puisque dans la discipline où vous m'avez élu, je suis un quasi-autodidacte. » J'enseigne pourtant les lettres depuis plus de 30 années et j'en ai fait mon métier, mais comme je continuerai ici de le faire, j'ai toujours enseigné ce que je ne savais pas et pris prétexte des cours que je donnais pour lire ce que je n'avais pas encore lu et apprendre enfin ce que j'ignorais. » Fin de citation. Loin de me rassurer, Antoine Compagnon, cette lecture alimentait en moi une angoisse permanente, avec le sentiment que la tâche était lourde pour mes épaules au regard de l'histoire de la littérature du continent noir, au regard de la place du passé colonial dans ce pays. Cruelle responsabilité pour moi, car je ne suis pas un professeur devenu un écrivain, mais je suis un écrivain devenu professeur grâce aux États-Unis. C'est donc l'écrivain qui vous parle aujourd'hui, c'est donc l'écrivain qui regarde le monde et ce siècle qui bascule dans les bruits du présent et les bouleversements de la mondialisation. Tout cela, toutes ces responsabilités en ces lieux, en ces temps, me conduisaient à une sérieuse interrogation. Et si vous vous étiez trompé de personne ? J'avais soudain trouvé le point de départ de mon allocution, commencer par vous décliner mon identité et peut-être vous laisser l'opportunité de vous rétracter, l'erreur est humaine. Qui suis-je au fond ? Vous n'aurez pas de réponse dans mes deux passeports congolais et français. Suis-je un Congolois, comme dirait le grand poète congolais Tshikaya Outamsi ? Suis-je un binational pour coller à l'air du temps ? En réalité, en 1530, année de la création du Collège de France, j'allais dire du Collège royal, je n'existais pas en tant qu'être humain. J'étais encore un captif. Et en Sénégambie, par exemple, un cheval valait de 6 à 8 esclaves noirs. C'est ce qui explique mon appréhension de pratiquer l'équitation et surtout d'approcher un équidé, persuadé que la bête qui me porterait sur son dos me rappellerait cette condition de sous-homme frappé d'incapacité depuis la malédiction de Cham, raccourci que j'ai toujours combattu, mais ce mythe de Cham, revisité selon les époques et les circonstances, a nourri en grande partie un certain racisme à mon égard et a servi de feuille de route à l'esclavage des Noirs dans ses dimensions transatlantiques et arabo-africaines. En même temps, de près ou de loin, il m'a sans doute inoculé la passion des mots, le désir de conter, de raconter et de prendre la parole. Si ma couleur de peau, que je ne troquerai pour rien au monde, est absente des textes religieux rapportant cet épisode, on la retrouve curieusement chez Origène, le père fondateur de l'exégèse biblique, qui introduisit au IIIe siècle la noirceur du péché. Être noir sera par conséquent un destin pour des millions d'individus parce que cette couleur, jetée en pâture, cousue de fils blancs, était devenue une posture face à l'histoire. Le combat des femmes et des hommes, épris de liberté, d'égalité et de fraternité, a contribué à nuancer les choses. Pourtant, je suis le même homme. J'ai gardé mon nez épaté et vous avez depuis longtemps dépassé les clichés des XVIe et du XVIIe siècle où, ainsi que le nôtre, François de Négroni, certains abbés professaient que les Noirs n'étaient en rien fautifs, ne devaient leur couleur qu'au soleil de leur latitude, qu'ils auraient une meilleure odeur s'ils vivaient dans le froid et que si les mères africaines cessaient de porter les enfants écrasés sur le dos, les nègres auraient le nez moins épaté. Tout cela est certes de l'histoire, tout cela est certes du passé, me diraient certains. Or, ce passé ne passe toujours pas. Il habite notre inconscient. Il gouverne parfois, bien malgré nous, nos jugements. Et vit encore en nous tous, car il écrit nos destins dans le présent. En m'accueillant ici, vous poursuivez votre détermination à combattre l'obscurantisme et à convoquer la diversité de la connaissance. Je n'aurais pas accepté cette charge si elle était fondée sur mes origines africaines. Et j'ai su que mon élection était singulière par le fait que vous élisiez pour la première fois un écrivain à cette chaire de création artistique. Et je vous remercie sincèrement de me compter parmi les illustres membres de votre institution. En un mot, je suis fier et heureux d'être ici parmi vous, avec vous. Mesdames, Messieurs, en guise d'ouverture à mes prochaines leçons dans cette chaire, je vous propose de revenir sur quelques-unes des accointances de la littérature coloniale française avec la littérature d'Afrique noire d'expression française à laquelle il conviendra, dans les marges et dans le récit parfois chaotique, d'associer les littératures caribéennes et afro-américaines. Sinon, que serait l'histoire de l'immigration noire en France sans le banjo de Claude Maquet, sinon que serait la pensée noire sans les poèmes et les passions d'Aimé Césaire? Oui, la littérature d'Afrique noire et la littérature coloniale française sont à la fois inséparables et antagoniques, au point que pour appréhender la création littéraire africaine contemporaine et le roman actuel issu des présences diasporiques, nous devons relire à la loupe les écrits coloniaux, donc nous garder de les considérer comme poussiéreux ou destinés à être dispersés dans le fleuve de l'oubli. C'est un constat indéniable. La littérature coloniale française a accouché d'une littérature dite nègre, celle-là qui allait revendiquer plus tard une parole interdite ou confisquée par l'Occident, permises parfois sous tutelle ou sous le couvert d'une certaine aliénation culturelle, jusqu'à la franche rupture née de la négritude, ce courant qui, dans l'entre-deux-guerres, exaltait la fierté d'être noir et l'héritage des civilisations africaines et qui sera l'objet de ma prochaine leçon. Cette continuité est celle du temps, comme l'armée sénégalaise est le fruit des tirailleurs sénégalais, comme les frontières du Congo sont le résultat de la conférence de Berlin qui partagea l'Afrique, et comme la langue française en Afrique est le fruit évident des conquêtes coloniales. Si pour nous, depuis l'Europe, l'Afrique est aujourd'hui proche, elle a été pendant longtemps le territoire des légendes, entretenant des investigations d'investigateurs obnubilés par la quête des lieux mythiques comme la ville de Tombouctou, les sources du Nil, l'empire du Monomotapa ou l'empire du Songhai. Succédant à la vague des fictions d'exploration et d'aventure, la littérature française dite exotique accompagna, elle, les conquêtes coloniales. Et c'est sans doute pour cela qu'elle avait parfois été perçue en opposition avec la littérature coloniale, comme si cette dernière était une étape ultérieure. Cette littérature exotique, selon Jean-François Stazac, engage à reproduire un voyage qui a été déjà fait, celui d'où proviennent les textes ou les images si attirants qu'on veut aller les voir en vrai. Dans l'espace anglophone, par exemple, le genre avait eu un tel succès que certaines fictions s'étaient vues érigées au rang de chefs-d'œuvre. En France, Jean-Marie Seyan, qui avait recensé plus d'une centaine d'œuvres de cette période, avoua ne pas en avoir raté une seule qui aurait eu la force d'un Joseph Conrad dans « Au cœur des ténèbres ». L'universitaire n'avait trouvé qu'un foisonnement de romans qui constitue un champ négligé de la littérature de la fin du XIXe siècle. Les Britanniques n'échappèrent pas non plus au piège du genre. Pour l'écrivain nigérian Chinua Achebe, par exemple, « Au cœur des ténèbres » montrait une Afrique trop sombre dans laquelle on ne voyait que sorcellerie et protagonistes obscurs qui n'étaient pas de toute façon les vrais acteurs du roman. Les Africains n'étaient qu'une matière, les objets d'une analyse que Conrad avait décidé de faire du continent noir. À la rigueur, ce qui comptait pour l'écrivain anglais, c'était ce long voyage, c'était la remontée du fleuve Congo par son personnage principal, mandaté par les Belges. Il n'y avait jamais une vraie introspection, un regard intérieur qui aurait pu aider à saisir l'âme de ces populations africaines, puisque Conrad présentait l'Afrique comme un autre monde, un monde de la bestialité, en somme, l'antithèse de l'Europe, par conséquent de la civilisation. Néanmoins, Au cœur des ténèbres demeure un livre majeur, bien au-delà de son siècle, puisqu'il inspira en 1979 le film devenu mythique et prophétique, « Apocalypse Now » de Francis Ford Coppola. Dans les œuvres exotiques aussi, comme dans les romans d'aventure, l'Africain jouait toujours un rôle caricatural et pour l'heure, il n'y avait aucune concurrence de discours puisqu'il n'avait pas encore donné sa propre vision du monde. Dans le même esprit d'ailleurs que la propagande coloniale où ce qui était illustré ne parlait jamais, ne contredisait jamais, ne prenait jamais la parole, alors on se mettait à croire à cette propagande coloniale, comme on se mettait à croire en ces romanciers qui semblaient nous dire le vrai, alors qu'ils inventaient un continent, alors qu'ils imaginaient les Noirs. Le champ de la littérature coloniale, pour sa part, n'est pas aussi simple à déterminer. Bernard Morales nous rappelle combien, à l'époque de son rayonnement, cette littérature était tout simplement dénommée littérature africaine, avant d'être qualifiée tour à tour littérature négrophile, de littérature esclavagiste, de littérature exotique et finalement de littérature coloniale. Même si les mots se cherchaient, cette littérature avait marqué son temps et avait largement contribué à la culture coloniale devenue durant cette période un des pivots de la pensée commune des Français sur le monde. Dans un souci d'élargissement du corpus, Janos Riss considère que la littérature coloniale ne peut être vue comme un ensemble cohérent dans la mesure où elle est portée par des genres aussi hétéroclites que les récits d'exploration, les mémoires des coloniaux ou des fonctionnaires, les textes de propagande, la poésie, le drame ou, pour ce qui nous concerne, le roman. Je rajouterai même qu'il est nécessaire de dépasser le poncif selon lequel la littérature coloniale serait essentiellement celle qui proviendrait du colonisateur. Sinon, comment et où classer la littérature africaine de cette ère coloniale produite par les indigènes et qui annonçait déjà leur volonté de ne pas laisser les autres bêler à la place de la chèvre? Inscrire le roman africain de cette période dans le roman colonial ne signifie pas lui affecter le même discours que la production littéraire coloniale française. Bien au contraire, de fait, même à l'intérieur de ce que j'appellerais la fiction coloniale africaine, on rencontrait forcément des subdivisions entre, d'un côté, les auteurs qui prêchaient plutôt une certaine conciliation à l'égard de la culture occidentale, avec le risque d'être taxé d'assimiler, et de l'autre, ce qui opérait une rupture radicale dans un élan farouche d'illustration des civilisations africaines qui a connu un moment de basculement dans les années 30 avec la négritude que je viens d'évoquer. La littérature française des colonies ou sur les colonies se démarquait de celle exotique qui la précédait en ce que les écrivains coloniaux posaient comme préalable la connaissance et le vécu dans les colonies, un peu comme la littérature de voyage qui n'était pas faite pour les casaniers. Connaître la situation coloniale, c'était en comprendre de l'intérieur les mécanismes, que l'on soit zélateur ou critique, c'était de l'intérieur que s'écrivait cette littérature coloniale. Être né dans les colonies était un plus, affirmait d'ailleurs Roland Lebel dans son livre « L'Afrique occidentale dans la littérature française », où il érigeait carrément l'écrivain colonial Robert Rondeau au même rang que Rudyard Kipling, le romancier français comme son homologue anglais ayant vu le jour dans les colonies, et ses livres étant de ce fait le résultat d'une documentation directe puisée dans la réalité d'événements vécus par lui. Dans l'esprit même de la littérature coloniale, la légitimité du discours devait donc revenir à ceux qui vivaient ou avaient vécu la réalité coloniale. Loin de l'attitude de ces voyageurs qui survolaient le continent et s'empressaient de raconter leur voyage, ce principe disqualifiait par exemple les écrits d'André Gide, « Voyage au Congo » et « Retour du Tchad ». C'était cette exigence du vécu qui corrobore l'idée que la littérature coloniale avait pris son élan avec la mise en place de la colonisation et son objectif était clair, justifier l'entreprise coloniale. Les réserves émises par les écrivains coloniaux à l'égard des écrivains voyageurs sonnent plutôt comme une attitude de préservation d'un précaré tropical, puisque plusieurs de ces écrivains voyageurs, comme Gide, changeront davantage le regard sur l'époque coloniale et l'Afrique moderne que les dizaines de livres pourtant à succès d'Henri Bordeaux, des frères Tarot ou du commandant Jean Renaud. Il y avait donc, chez certains écrivains voyageurs, un discours qui mettait à mal les fondements du système colonial. Le préalable même de l'expérience de terrain n'était alors qu'une échappatoire, car dans l'entre-deux-guerres, l'ethnologie en appelait elle aussi à la même rigueur. Michel Léris avouera d'ailleurs dans sa préface à l'Afrique fantôme, je cite, « Passant d'une activité presque exclusivement littéraire à la pratique de l'ethnographie, j'entendais rompre avec les habitudes intellectuelles qui avaient été les miennes jusqu'alors et au contact d'hommes d'autres cultures que moi et d'autres races, abattre des cloisons entre lesquelles j'étouffais et élargir jusqu'à une mesure vraiment humaine mon horizon. » Fort de ce constat, Léris multiplia des voyages en Afrique et aux Antilles. C'est à son retour de la mission ethnographique et linguistique Dakar-Djibouti, guidée par Marcel Griol, qu'il publiera « L'Afrique fantôme », qui est une somme immense dans laquelle on note non seulement une exigence scientifique, mais aussi un souffle poétique révisitant le genre du journal intime ou du carnet de route et plaçant son auteur à mi-chemin entre l'ethnographie et le mouvement surréaliste. Ce besoin de contact avait été observé bien avant par l'ethnologue Marcel Griol, qui avait pris Michel Léris comme secrétaire archiviste dans sa mission, l'emmenant de Dakar à Djibouti. On reconnaît aujourd'hui l'importance des travaux de Griol, mais surtout on constate avec quelle attention il avait regardé l'Afrique et l'humain, un tournant majeur dans la manière de parler de ce continent. C'est ainsi que s'affirmèrent des écrivains voyageurs qui, eux aussi, s'écartaient de plus en plus du lyrisme des récits d'exploration. On note par exemple le genre du récit documentaire chez Paul Morand dans son Paris-Tombouctou, publié en 1928, mais les écrivains coloniaux auraient pu lui rétorquer que son récit sur Tombouctou n'occupait qu'une infime section du livre et que le voyage se passait en grande partie au Sénégal, au Soudan français, en Guinée, en Haute-Volta et en Côte d'Ivoire. On pense aussi aux pages explosives et incisives de Voyage au bout de la nuit, 1932, de Louis-Ferdinand Céline, et en particulier à sa description du Cameroun, puisqu'il avait vécu près d'une année dans ce pays après la Grande Guerre. Mais c'est André Gide qui porta assurément un grand coup aux écrivains coloniaux et devint de ce fait une de leurs cibles privilégiées, peut-être Rouspéterelle et coloniaux, parce que son voyage de 7 mois en Afrique équatoriale française n'était pas suffisant pour suppléer une vraie et longue immersion. Ce fut néanmoins un voyage au Congo qu'il exposa les conditions de vie des autochtones, en particulier le travail forcé, les abus et la brutalité des compagnies concessionnaires en zone forestière, pratiques couvertes par l'administration coloniale. Certes, Gide ne remit pas en cause le système colonial, uniquement ses abus, sa violence et sa déshumanisation, mais il suscita toutefois un véritable débat jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale française. La droite coloniale lui reprochait ses cris d'effroi, la gauche coloniale de ne pas voir l'œuvre civilisatrice de la France. Il avait seulement été lucide, et malgré sa lucidité, il ignorait sans doute comment sortir du tourbillon colonial. La mise en cause du système colonial était néanmoins en marche, portée entre autres par Terre de Ben, Le Brûlot d'Albert Londres, qui parut d'abord dans le quotidien Le Petit Parisien en 1928, puis une année plus tard sous forme d'ouvrage chez Albin Michel. L'écrivain journaliste livrait le plus fort témoignage de l'époque sur les prétendues ténèbres africaines. C'était du Conrad, mais avec des chiffres en plus. Lorsque Londres décida de se rendre pendant 4 mois en Afrique, il dut jongler non seulement avec les fonctionnaires du ministère des colonies qui avait été créé en 1894, mais aussi avec les petits fonctionnaires de l'Agence générale des colonies instituée en 1919 et dont la mission quasi divine était de fabriquer une image idéale de l'épopée impériale où les blancs devaient servir de guide, les masses africaines étaient contraintes de les suivre en souriant, et au milieu de ce monde idéal, les ponts, les routes et les quais portuaires devaient préparer l'Afrique de demain. Dans mon pays d'origine, le Congo-Brazzaville, le chemin de fer qui coûta la vie à mes ancêtres était en pleine construction, tandis que à Marseille, en 1922, une seconde exposition coloniale renforçait l'idée de cette colonisation, comme le souligneront Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire, l'essor de l'idée impériale et l'engouement pour les eaux humains qui résultait de l'articulation d'un imaginaire social sur l'autre, colonisé ou non. C'est donc dans ce contexte que Terre d'Ébène arriva. Ce livre illustra le courage et l'objectivité de ce journaliste écrivain qui dénonçait le travail forcé, pour ne pas dire une autre forme d'esclavage perpétuée dans les colonies par la France, la plus grande France, celle de la République, ce chemin de fer du Congo qui devait fendre les forêts africaines pour emporter les richesses du sol d'Afrique par-delà l'océan, devenait le symbole même de l'exploitation du continent par les colonisateurs. Albert Londres dira dans sa préface, comme pour assumer ses prises de position inattendues au moment où les livres étaient critiqués, il dira « Je demeure convaincu qu'un journaliste n'est pas un enfant de cœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales roses. Notre métier n'est pas de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. » Fin de citation. Avec les textes des grands voyageurs, les enquêtes des reporters, les récits des écrivains français contestataires et les articles des journalistes lucides sur le monde d'alors, se dessinait pour l'Afrique une prise de conscience qui éclatera avec l'avènement de la littérature africaine écrite par les Africains, pour les Africains à première vue, mais en réalité en forme de réponse à l'idéologie coloniale, donc mettant l'Europe sur le banc des accusés. Mesdames et messieurs, on nous présente d'ordinaire le continent africain comme le lieu de prédilection de la littérature orale traditionnelle. La formule d'Amadou Ampateba, généralement prise à tort comme argument indéniable de la prééminence de l'oralité africaine, est désormais un adage. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Le contexte de ces propos, prononcés le 1er décembre 1960, lors de la 11e conférence de l'UNESCO, était plutôt lié à la nécessité de préserver une des sources de l'histoire du continent. Et c'est donc une idée erronée que de prétendre que l'Afrique aurait découvert l'expression écrite avec l'avènement de la colonisation et de la littérature coloniale. L'alphabet arabe préexistait à l'alphabet latin, introduit bien plus tard par les missionnaires. Les littératures traditionnelles d'Afrique, comme le soulignent Jean de Rive, Jean-Louis Joubert et Michel Laban, s'inscrivent tous dans une civilisation de l'oralité, ce qui implique ni ignorance ni exclusion. Cela veut dire que même lorsqu'elle laisse des traces écrites, la littérature traditionnelle n'est pas faite pour être consommée à la lecture, mais pour être récitée sans support, en présence directe d'un auditoire, afin d'assurer la cohésion du groupe et la conscience communautaire. Si la colonisation a engendré une littérature africaine d'expression française par le biais de l'acculturation, cette littérature africaine bénéficia parallèlement du souffle culturel venu de l'Amérique, où l'homme noir revendiquait son intégrité devant une nation ségrégationniste qui poussa plus tard plusieurs écrivains et artistes afro-américains de renom à s'exiler en Europe entre les années 20 et 30, en particulier en France, où ils trouvèrent un espace d'expression pour leur art. Cette renaissance de Harlem, transposée à Paris, qui irrigua la ville lumière et conforta la pensée noire aux États-Unis, aura une influence directe sur l'émancipation des étudiants noirs en France. Ces rives afro-américaines de la Seine seront un aimant du monde au cœur de l'entre-deux-guerres et au-delà de la parenthèse lugubre de Vichy. Cette passion se poursuivra dans les années 50 pour faire de Paris la ville de l'émancipation des Noirs, non pas seulement d'Afrique, mais du monde entier, et dans le même temps, l'espace où la littérature coloniale prendra son envol vers une nouvelle destinée. En 1956, donc, à l'heure du congrès des écrivains et artistes noirs déjà évoqué, et dans le bouillonnement culturel de Paris, en décrivant la colonisation, en la déconstruisant, en la critiquant, plusieurs auteurs du continent africain s'inscrivaient dans la continuité de la littérature coloniale, mais en rupture avec le regard peu posé sur l'espace colonial qui, lui, avançait à grands pas vers les indépendances. On retrouve une multiplicité de traces, notamment dans « Un nègre à Paris », le roman de Bernard Dadier, publié en 1959, où dans une sorte d'exotisme renversé, c'est l'Africain qui dissèque la civilisation occidentale. Réhabiliter l'Afrique, exalter l'Afrique, tenir tête au discours occidental constituent les angles d'attaque de ce mouvement. Dire non par la création, convoquer la puissance de l'imaginaire, proposer une autre lecture du genre humain, telle allait être la tâche des auteurs africains, aussi bien pendant la période coloniale qu'après les indépendances, dans une sorte d'inventaire des mémoires. En somme, cette littérature d'Afrique noire se donnait pour ambition non seulement de substituer la parole africaine à la parole du colonisateur, mais également de rejeter radicalement le répertoire des clichés du roman colonial, sa représentation du monde social et son idéologie. Mais avec quels livres, avec quels auteurs, quels mots pouvaient promouvoir cette révolution? À partir de quelle date peut-on parler d'un avant et d'un après? Eh bien, les premiers murmures se font donc entendre avec l'explorateur métis sénégalais Léopold Pané en 1850 déjà, qui explora certains lieux d'Afrique avant les Européens, et un autre métis, l'abbé David Boila, qui publia ses esquisses sénégalaises en 1853. Mais l'année 1921 était, à n'en pas douter, ce moment clé de l'élan des lettres négro-africaines, c'est-à-dire 2 ans seulement après le congrès de la race noire à Paris, qui est aussi le second congrès panafricain. Le temps était à la critique. C'est en effet en 1921 que parut le roman qui suscita à la fois l'admiration et de vives critiques, avec son titre bien ancré, Batoila, sous-titré « Véritable roman nègre » et signé par René Maron. L'auteur, d'origine guyanaise, devint le premier noir à obtenir le prix Goncourt et le livre se déroule en Oubangui-Chari où l'écrivain et stagiaire dans l'administration coloniale. Ce prix résonnait indirectement comme une réponse au sacrifice des tirailleurs sénégalais au cours de la grande guerre que la marque bananière affichait désormais sur les murs de France à travers l'ami Yabon, dont le sourire hantait des millions de Français en dette envers l'Afrique. Il résonnait aussi comme une réponse aux Allemands qui dénonçait cette même année la présence de ces tirailleurs noirs outre-Rhin et parlait de honte noire. La préface de Batoila est une des charges littéraires les plus virulentes venant d'un noir contre un système dans lequel il était intégré lui-même. Au-delà de ces textes liminaires qui jeta un pavé dans la mare, Batoila est un roman qui ne tranche pas clairement le nœud gordien, une veine ambiguë que suivront des auteurs comme le Sénégalais Semen Ousmane et Abdoulaye Sadji ou encore le Guinéen Camara Lai. Même si ces romanciers conciliants n'ont pas pour objectif d'attaquer frontalement l'Occident, ils combattent en toile de fond la thèse de la supériorité de la culture blanche en exposant une certaine réalité africaine. Mais Batoila demeure un roman colonial, comme l'écrit Andrea Cali, parce que René Maran laisse transparaître des préjugés de colonisateurs dans sa présentation de certains aspects de la vie africaine et ne remet pas vraiment en question les abus des colonisateurs dans le corps du récit. Les rapports d'ailleurs de René Maron avec le système colonial illustrent une des grandes ambivalences des lettres négro-africaines, à savoir le désir d'assimilation patriotique de l'auteur à l'élite française. Persuadé de son devoir de propagande impériale, à partir de 1937, René Maron sera financé par le Service intercolonial d'information et de documentation afin de rédiger des articles adressés gracieusement aux journaux qui soutenaient la propagande coloniale. Ce travail, pour le compte des ministères des colonies et de l'agence de propagande, se poursuivit pendant une partie de l'occupation et il reçut en 1942 le prix Broquette-Gonin de l'Académie française, destiné à récompenser des auteurs remarquables pour leur qualité morale. Il publia plusieurs ouvrages sur les bâtisseurs d'empire, notamment chez Gallimard, Brazza et la Fondation de l'Afrique équatoriale française en 1941 et chez Albin Michel, Les pionniers de l'empire. Même si, après la guerre, il participa au Congrès mondial des écrivains et artistes noirs, même s'il fut encore présent à la deuxième édition de ce congrès à Rome en 1959, son parcours dans les années 30 soulève de multiples interrogations. Il signe en effet des textes dans Candide de 1933 à 1935, un journal littéraire plutôt ancré à droite, mais aussi dans Vendémiaire, et surtout dans « Je suis partout », le grand journal fasciste français qui deviendra pendant la guerre un quotidien collaborationniste et antisémite de premier plan. Batoila aura toutefois une influence dans la génération des intellectuels noirs à Paris. Léopold Sédar Senghor reconnut que René Maron avait été le premier à exprimer l'âme noire avec un style nègre en français. Sans doute, Senghor et ses confrères de la négritude étaient-ils conscients que certaines de ses œuvres africaines parues après Batoila, comme « Force et bonté » de Bakary Diallo, un ancien tirailleur sénégalais qui fut le premier à témoigner sur cette période de la Première Guerre mondiale, étaient en général imprégnées d'une obédience à la colonisation dont elles appuyaient l'idéologie de la mission civilisatrice. Il n'y avait pas d'excuse à une littérature de soumission. L'époque était celle de la remise en cause des préjugés dans les arts graphiques et picturaux, avec notamment en 1907 les Demoiselles d'Avignon de Picasso, influencées dans son travail par les masques et surtout par les mouvements corporels novateurs venus du continent noir. Pour réaliser cette peinture, matrice artistique du XXe siècle naissant, Picasso s'était inspiré d'une carte postale du photographe Edmond Fortier montrant plusieurs femmes porteuses d'eau. Il l'avait acquise en visitant l'exposition coloniale de 1906, présentée ici, à Paris, sous la coupole du Grand Palais. Dans ce zoo humain, dans ce temple de la propagande coloniale, naîtra un autre regard sur le monde, l'art et l'Afrique. Cette rupture aussi était présente dans la littérature avec l'anthologie nègre de Blaise Cendrars, parue en 1921, la même année que le roman de René Maron. Il n'y avait pas d'excuse pour une littérature de soumission. L'époque était également celle de la vulgarisation en Europe du jazz, des danses et des cultures noires en général. L'époque était enfin celle des thèses inattendues des ethnologues et archéologues allemands Léo Frobenius, qui démontait l'idée de la barbarie africaine et séduisait les Noirs de France, les encourageant à se départir de l'aliénation culturelle inculquée par l'éducation européenne, à reconsidérer le monde de fond en comble et à reconnaître l'apport de leur propre civilisation à l'histoire de l'humanité. Et l'expression de cette posture de reconquête se manifesta dans les revues des étudiants ne tenant parfois que sur quelques numéros comme la revue du Monde Noir, la revue Légitime Défense, publication mise en cause par le gouvernement français qui menaça notamment de supprimer leurs bourses, ou encore l'Étudiant Noir, revue dans laquelle on trouvait des textes d'Aimé Césaire, de Léopold Sédar Senghor ou de Léon Gontran Damas. Ces trois initiateurs de la négritude furent également présents dans la revue Présence africaine créée par Alioune Diop en 1947. À travers ces liens entre générations, se tissait une émancipation des mots qui était aussi celle des idées et des hommes dans un monde colonial cadenassé où l'autre était désormais un sujet de l'Empire devenu l'Union française. Autre ambiguïté de l'époque, le colonisé faisait parfois partie du cérémonial, du système, comme ministre, sénateur ou député. Une bonne partie de l'élite noire embrassait ainsi le statu quo en devenant des notables de l'Union française, alors que l'autre partie parlait désormais de rupture radicale. Tout au long de cette décennie, qui a connu la collaboration, la négritude avait le vent en poupe. Léon Gontran Damas publie en 1935 « Pigments », Aimé Césaire édite « Cahier d'un retour au pays natal » en 1939, Senghor rédit ses « Chants d'ombre » en 1945 et surtout trois ans plus tard, son anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache d'expression française. Les trois auteurs sont même adoubés par des voix fortes de la littérature française. Césaire fut préfacé par André Breton, Senghor, comme plus tard pour Frantz Fanon, préfacé par Jean-Paul Sartre, et Damas par Robert Desnos. Entre-temps, en 1948, l'anthologie africaine de Senghor a démontré l'existence d'une poésie négro-africaine en français et a fait découvrir des poètes comme David Diop, Birago Diop, Guy Tyrolien, Jacques Rabé-Manandjara ou encore Lamine Diakaté, donnant l'impression que la poésie était le genre de prédilection du courant de la négritude. Mais le roman ne tardera pas à émerger et à occuper une place considérable. Il faut exposer donc la grandeur de l'Afrique. Il faut exposer cette grandeur d'une Afrique défigurée mais digne sur les traces de ce qu'avait écrit le Béninois Paul Azoumé dans son roman Dogissimi, rejoint plus tard par le Congolais Jean Malonga dans la légende de Mfumu Mamazono, ou le Guinéen Djibril Tamsir dans Sundiata ou l'épopée Mandingue en 1960 sur la fondation de l'Empire du Mali. Mais toutes les œuvres de cette période turbulente n'étaient pas forcément étiquetées comme engagées dans la confrontation avec l'Occident. Certaines s'appliquaient plutôt à peindre les nouvelles mœurs africaines devant les charmes et les tragédies de la modernité, à disséquer les poids de la tradition ancestrale dans la ligne des écrits fondateurs du Sénégalais Ousmane Sossé, comme dans un piège sans fin d'Olympe Belikenom ou encore sous l'orage du Malien Seydou Badian. De tous les thèmes de cette période, les thèmes romanesques entre 1935 et 1960, c'est la colonisation qui demeurait la question centrale ou guidait la démarche des auteurs. Dans Climbier de Bernard Dadier, par exemple, en 1956, l'auteur évoque la question de l'acculturation par la langue française, dont l'apprentissage s'accompagnait des punitions les plus humiliantes. Ainsi s'interrogeait-il avec une ironie digne des lettres persanes de Montesquieu, quelles sanctions prendre contre les individus qui jouent si légèrement avec une langue aussi riche, coulante et diplomatique que la langue française ? Le Camerounais Ferdinand Oyono, lui, s'attaqua pour sa part à l'ingratitude française dans Le Vieux Nègre et la Médaille, paru en 1956, où l'Autochtone avait tout donné à la France, les terres, les hommes pour aller combattre en Europe et ne recevait en guise de reconnaissance qu'une médaille dans des conditions à la fois loufoques et tragiques. Tel était déjà le cas dans le poème liminaire du recueil « Hostie noire » de Senghor, paru en 1948. Dès son ouverture, l'auteur, le poète, rendait hommage aux tirailleurs sénégalais en clamant « Vous n'êtes pas des pauvres, aux poches vides, sans honneur, mais je déchirerai les rires banyania sur tous les murs de France. » En 1956, dans « Une vie de boy », le même Ferdinand Oyonnax s'appesantit sur les relations colonisateurs-colonisés, des relations marquées à la fois par la domination de l'un et la fascination de l'autre. Considéré comme le Zola africain, peut-être pour sa veine naturaliste et la parenté de Germinal avec son roman « Les bouts des bois de Dieu » paru en 60, le Sénégalais Simbène Ousmane évoqua dans sa fiction la grève des cheminots de la ligne Dakar-Niger en 1947-1948 pour illustrer les aberrations de la colonisation allant de la corruption des chefs coutumiers aux brutalités des forces de l'ordre, avec en toile de fond le courage des femmes grévistes qui entreprendront une longue marche de protestation. Le Camerounais Mongo Betty devint le plus virulent de cette génération avec son article polémique « L'Afrique noire, littérature rose » paru en 1955 dans la revue Présence africaine. Il recommandait un engagement absolu de l'écrivain africain, ce qu'il démontra lui-même dans « Ville cruelle » en 1956, pointant du doigt les abus de l'exploitation des richesses du Cameroun par les colons avec la complicité de certains indigènes ou encore dans le pauvre Christ de Bomba en 1956, véritable réquisitoire contre une évangélisation imposée. L'aventure ambiguë du Sénégalais Cheikh Hamidou Kane se pencha sur le sort du colonisé écartelé entre sa culture d'origine du pays des Diallobé et celle de l'école coranique. Un des personnages principaux de ce roman, La Grande Royale, demandait à apprendre l'art de vaincre sans avoir raison en allant à l'école de l'Occident. Il y a une divergence entre Mongo Bessy et Camara Lai. Cette divergence définit au fond une ligne de rupture au sein de cette littérature africaine postcoloniale en train de se chercher. Camara Lai vit la littérature comme un moyen de capter l'individu, tandis que Mongo Betty pense la littérature et lui affecte la fonction de la libération des peuples africains. Ce sont ces deux voies que suivront les lettres africaines après les indépendances, avec des variantes selon les périodes. L'indépendance dans les thèmes abordés et la liberté de ton seront réunis dans deux des œuvres les plus emblématiques de la littérature africaine, Le devoir de violence et Le soleil des indépendances. Amadou Kourouma et Yambo Wologem deviendront ainsi ceux qui inaugureront une période à la fois d'interrogation et de désillusion entre les indépendances africaines et la quête de l'histoire. Les femmes, il faut toujours le rappeler qu'il existe une littérature écrite aussi par les femmes, apparaîtront à partir des années 70, avec notamment la malienne Awa Keïta, mais aussi la sénégalaise Awa Thiam. Mais les deux plus grandes révélations seront cependant les sénégalaises Mariama Ba et Aminata Sofal. La première publiera Une si longue lettre en 1979, roman épistolaire, et La grève des Batous en 1979 sera publiée par Aminata Sofal. Cette génération de femmes sera suivie par une nouvelle plus récente, incarnée par la sénégalaise Ken Bougoul et la camerounaise Calix Béala. Mais la littérature africaine des années 90, du début des années 2000, montre aussi un intérêt sur le regard de l'immigration avec Fatou Diome, Bessora, Daniel Biaoula, J.R. Essomba et Jacques Chevrier parlera à juste titre d'une littérature de la migritude. La littérature africaine des années 2000 poursuit cet élan de migration en inscrivant une dimension plus éclatée. Elle nous dit qu'en se dispersant dans le monde, les Africains créent d'autres Afriques, tentent d'autres aventures, peut-être salutaires pour valoriser les cultures du continent noir, conscient que l'oiseau qui ne s'est pas envolé de l'arbre sur lequel il est né ne comprendra jamais le chant de son compère migrateur. Comment justement entrer dans la mondialisation sans perdre son âme pour un plat de lentilles? Telle est la grande interrogation de cette littérature africaine en français dans le temps présent. Et la thèse de Dominique Thomas dans Noir de France nous rappelle que l'heure est venue pour la France de comprendre que ces diasporas noires qui disent le monde dans la langue de Molière et de Kuruma se trouvent au cœur de l'ouverture de la nation au monde, au cœur même de sa modernité. J'appartiens à cette génération-là, celle qui s'interroge, celle qui, héritière bien malgré elle de la fracture coloniale, porte les stigmates d'une opposition frontale, de cultures dont les bris de glace émaillent les espaces entre les mots, parce que ce passé continue de bouillonner, ravivé inopportunément par quelques politiques qui affirment un jour que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, et un autre jour que la France est un pays judéo-chrétien et de race blanche, tout en évitant habilement de rappeler que la grandeur du pays en question est aussi l'œuvre de ces taches noires et que nous autres Africains n'avons pas rêvé d'être colonisés, que nous n'avions jamais rêvé d'être des étrangers dans un pays et dans une culture que nous connaissons sur les bouts des doigts. Ce sont les autres qui sont venus à nous et nous les avons accueillis à Brazzaville au moment où cette nation était occupée par les nazis. J'appartiens à la génération du Togolais Kossi Efui, du Djiboutien Abdourahmane Ouaberi, de la Suisso-Gabonaise Bessora, du Malgache Jean-Luc Rarimana, du Camerounais Gaston Paul Effa. En même temps, j'appartiens aussi à la génération de Serge Joncourt, de Virginie Despentes, de Mathias Sénard, de David Van Reybrouck, de Marine Diaye, de Laurent Godet, de Marie Darieux-Seck, d'Alexis Génie et de quelques autres encore qui brisent les barrières, refusent la départementalisation de l'imaginaire parce qu'ils sont conscients que notre salut réside dans l'écriture, loin d'une factice fraternité définie par la couleur de peau ou la température de nos pays d'origine.
C'est un déjeuner.
Un goûter délicieux, banania.
Banania, banania.
Y'a bon.
Banania.
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 Y'a bon, banania.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Alain Mabankou, titulaire de la chaire de création artistique. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour la suite du cours intitulé Lettres noires, des ténèbres à la lumière. Belle journée à tous. À l'écoute de France Culture.